Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes désormais, après ce flash d'info de RFI, sur Radio Diwa, R Diwa, la radio du Diwa, la radio des Diwa et même au-delà. C'est la troisième fois que vous retrouvez avec plaisir, j'espère, ce rendez-vous CCC, comme c'est ça la classe. Le principe, je vous le rappelle, pour les malchanceux qui ne nous auraient pas encore écoutés, un professeur et une bande de jeunes gens, tous lycéens et passionnés d'actu qui sont autour de la table et tous ensemble, on repasse l'actu. À l'instant, les informations sur RFI nous parlaient de Tony Estanguet, ce champion de canoë. Et bien autour de la table, j'ai quelques spécialistes de canoë puisqu'il y a quelques élèves de la section sport nature du lycée du Diwa. On y consacrera d'ailleurs un dossier ou un sujet dans 15 jours, le 5 juin, mais on vous en reparlera à la fin de l'émission. On va d'abord faire les présentations et commencer peut-être par Clarisse, bonjour.
Bonjour à tous.
L'énergique, la pétulante Clarisse et la non moins énergique et pétulante Anne-Sophie.
Bonjour.
La forme.
Oui.
Ulysse.
Bonjour.
Qui n'était pas là la semaine dernière car il a dû rapporter des coupes et des médailles, je ne sais pas, au défi nature.
Vous avez été les résultats n'ont pas encore été publiés, il me semble.
Les résultats ne sont pas encore promulgués, d'accord. Donc le suspense est insoutenable. Nous sommes un peu plus nombreux que la semaine dernière parce que je vous avais dit donc une partie de la bande était... en déplacement, dans le défi nature, et donc nous sommes désormais plus nombreux et la bande est presque au complet. Bonjour Fanny, qui était elle déjà fidèle au poste la semaine dernière. Vous savez, c'est celle que j'appelle la Lucky Luke au féminin, celle qui dégaine et parle plus vite que son ombre.
Bonjour.
Ensuite nous avons monsieur Petitjean Junior, son prénom est Théo, le frère aîné va suivre.
Bonjour à tout le monde.
Le frère aîné.
Bonjour.
Il s'appelle Antonin. Et enfin, monsieur Adrien.
Bonjour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et évidemment, je n'oublie pas le grand technicien qui est derrière les manettes, monsieur Joris. Et bien sûr, il est debout. On manque un peu de chaises dans ce studio, mais on va s'autofinancer. On va y arriver. Non, il est debout, mais c'est l'homme, non pas qui jouait du piano debout, mais qui allait parler au micro debout. Et il s'appelle Martin. Bonjour Martin.
Bonjour.
Bonjour.
Trois sujets aujourd'hui seront traités, comme à chaque fois. On va commencer par parler de l'apprentissage. Il était question, il y a quelque temps de cela, il en est régulièrement question, de rétablir l'apprentissage dès l'âge de 14 ans. Alors est-ce que l'apprentissage à 14 ans, c'est un trop jeune âge ou est-ce que c'est juste à tort? Ou est-ce qu'il faut assurer un collège, voire des années de lycée au-delà? On en discutera avec nos lycéens qui, eux, ont dépassé cet âge-là, à peine pour certains, un peu plus pour d'autres. Nous parlons ensuite d'un sujet sérieux, ils le sont tous bien sûr, mais on était un peu plus en léger la semaine dernière avec Cannes, In ou Bling Bling, c'est les otages à l'étranger. Régulièrement, on se pose des questions sur les rançons. Faut-il verser des rançons pour les otages français, en l'occurrence à l'étranger? Récemment, on a des otages qui ont été libérés au Mali. Alors, est-ce que la rançon, c'est un moyen de pression? Est-ce que c'est sans façon quand c'est un moyen de faire chanter ou est-ce qu'au contraire c'est un moyen de libérer ces otages à l'étranger? Vous apprécierez le sens de la rime à chaque fois dans nos problématiques. Nous travaillons souvent en classe les problématiques et on essaie tous ensemble de vous proposer des problématiques stylées et rimées. Enfin, nous parlerons des campagnes de lutte contre la violence routière, contre le harcèlement, contre les violences à l'école notamment. Le point de départ de ce sujet a été lancé en quelque sorte par ce clip d'Indochine, College Boy, qui est interdit au moins de 18 ou 16 ans, je ne sais plus. Récemment, cela est arrivé. Il fait beaucoup parler, c'est un sujet, un clip polémique, où on voit un jeune homme tabassé jusqu'au sang et crucifié finalement à la fin du clip. Donc des images très violentes, parce qu'il est harcelé physiquement et moralement par des jeunes gens de son collège. Est-ce que c'est trop? Est-ce qu'il faut des images choc, des images molles pour convaincre et assurer les consciences de l'importance de ces sujets-là? On parlera de ça à la fin de l'émission. On va donc commencer par l'apprentissage à 14 ans. Je disais à l'instant, est-ce un trop jeune âge ou juste à temps? Est-ce que quelqu'un a une opinion là-dessus? Alors, aucun de ceux qui sont autour de la table, par définition, ils sont en seconde ou en première, n'est parti, comme on disait tantôt, en apprentissage, c'est-à-dire sortez du collège classique pour... partager à la fois des cours et des stages dans les entreprises. Est-ce que vous pensez que c'est trop tôt? Est-ce qu'il faut assurer un enseignement général, comme vous en avez un vous-même, jusqu'à 15, jusqu'à 16, jusqu'à 18 ans? Vous savez que l'enseignement est obligatoire, la scolarisation est obligatoire jusqu'à 16 ans, pas au-delà. D'ailleurs, on peut même, ça se sait assez peu, je ne vais pas donner de mauvaises idées, mais vous êtes presque à la fin du parcours. Ce n'est pas forcément une mauvaise idée d'ailleurs, mais en dehors du lycée, ne pas être scolarisé, c'est possible aussi, être éduqué par, et instruit en l'occurrence là par ses parents, avec un suivi régulier d'un inspecteur d'académie. Donc c'est en fait l'instruction, l'éducation qui sont obligatoires et pas la scolarisation. Mais enfin, la plupart des jeunes gens sont scolarisés. Donc que pensez-vous de l'apprentissage? Est-ce que quelqu'un, en gros, hein, pour être concret et précis, qui très tôt, si ça existe, vous allez me dire, a envie d'être ouvrier, a envie de faire un métier dans le bâtiment, bon, c'est toujours hein, l'image un peu tarte à la crème du maçon ou autre, mais évidemment il n'y a pas de saut métier, ou quelqu'un qui veut être plombier, quelqu'un qui adore la cuisine ou la pâtisserie, c'est de plus en plus en vogue en plus, il y a de plus en plus d'émissions à la cuisine, et je vais m'arrêter parce que je suis très bavard et je vais vous laisser la parole vraiment, comme à chaque fois, cher lycéen, ma phrase est très très longue, j'en suis conscient, je vais l'arrêter dans deux secondes. Est-ce que quelqu'un donc, qui a une vraie passion, qui n'est pas forcément en lien direct avec ce que l'on peut apprendre au collège ou au lycée, doit avoir la possibilité de partir, exercer cette passion, en tout cas s'y préparer, ou est-ce que c'est trop tôt? Anne-Sophie.
Et bah pour ma part, moi, je pense que c'est juste à temps, à partir de 14 ans, parce que des jeunes gens qui ont déjà l'idée de ce qu'ils veulent faire, être obligés pour eux de rester à l'école jusqu'à 16 ans, bah, ça va aller. Finalement, je pense que ça les pénalise plus parce qu'ils passent des heures en cours alors qu'ils n'ont pas envie d'y être, qu'ils ont envie d'apprendre un métier qui les passionne davantage. Et finalement, en plus de tout, ça va être pénalisant pour les élèves qui, eux, ont envie de travailler parce qu'ils vont faire affaire à des gens qui n'ont pas envie de travailler, qui ne sont pas finalement attentifs en classe et qui vont plus les... Pour moi, c'est une évidence qu'il ne faut pas les laisser aller jusqu'à 16 ans s'ils n'en ont pas envie, si à côté de ça, ils veulent faire un métier pour lesquels ils feront à nouveau des études, mais dans ce métier-là, ce qui les intéresse beaucoup plus.
Dans les contre-arguments par rapport à ce que tu dis, on entend parfois deux choses essentiellement. Un, que même ceux qui veulent faire un métier manuel, comme on disait autrefois, ça ne veut plus dire grand-chose, mais enfin, quand même encore, ont besoin d'avoir de la culture et que c'est finalement leur faire injure que de considérer qu'eux doivent avoir une sous-culture ou une culture au rabais. Et puis, deuxième argument aussi, est-ce qu'ils ne risquent pas de changer d'avis? Et du coup, ça deviendrait plus compliqué de réintégrer le circuit scolaire. Si jamais, finalement, ce métier-là n'est pas fait pour eux, est-ce qu'ils ne se retrouvent pas un peu prisonniers? Oui, Ulysse et Adrien.
Je pense que l'apprentissage des 14 ans, ce n'est pas une bonne chose parce que en France, l'école, elle est conçue depuis les lois Ferry de la fin du 19e comme une école pour devenir citoyen et donc avoir une culture générale pour avoir un esprit critique qui est nécessaire dans une démocratie, que tous les citoyens aient une culture et un esprit critique pour être en démocratie. Et je pense que d'arrêter l'école, c'est pas totalement l'école, il reste quelques cours essentiels, mais je pense qu'il faut un apprentissage général de tous les élèves, de tous les Français jusqu'à 16 ans pour garantir un niveau de l'école, un niveau scolaire important. De plus, on sait que nos résultats scolaires dans les enquêtes internationales sont très basses et c'est pas en mettant l'apprentissage plus tôt que ça va s'améliorer.
Les résultats sont assez bas et hier, il était indiqué dans le journal de Pujadas, je crois, sur France 2, qu'à l'oral en particulier, on était particulièrement mauvais. On est en train de se rattraper tous ensemble avec cette émission de radio, j'espère. Et c'est vrai que c'est important de savoir s'exprimer. Et une directrice de ressources humaines d'une entreprise expliquait qu'il y avait très peu de métiers au fond, même ceux dont on parle là depuis quelque temps, où on n'avait pas à s'exprimer, à être chef d'équipe, à devoir donner des consignes, à devoir faire des comptes rendus d'entretiens, de réunions, et que finalement l'expression orale était tout aussi importante que l'expression écrite. Adrien et Antonin ?
Oui, alors moi premièrement je trouve, comme vous l'avez dit monsieur, on peut rapidement changer de...
Tu peux m'appeler Simon.
Voilà.
Juste Simon. Ici. Hein, à la radio.
Voilà. Je pense qu'un jeune de 14 ans peut facilement changer d'idée. On est encore dans l'adolescence, on a plusieurs projets. Et sinon, moi, je suis pas du tout contre pour un apprentissage dès l'âge de 14 ans. Il faudrait juste un suivi, je pense, peut-être d'un inspecteur qui suivrait de proche l'élève.
Dans le cadre de l'apprentissage, tu veux dire ?
Voilà.
À côté d'eux, d'accord. Ouais. Un peu comme pour ceux qui ne sont pas du tout scolarisés et qui sont suivis par leurs parents et vérifiés, si je puis dire, par un inspecteur.
Pour voir après leur goût, ce qui se développe en eux, s'ils ont de nouvelles idées, si ce qu'ils voient, ce qu'ils apprennent, ça étend pas vraiment. Enfin, voilà.
Antonin et Joris ?
Moi, je suis pas si d'accord avec ça parce que moi, j'ai un exemple concret avec mon meilleur ami du collège. Arrivé en cinquième, lui il a directement décidé il voulait être boulanger. Et du coup, à part les années de quatrième et troisième, il a absolument rien fait parce que ça lui servait, parce que voilà, lui il était déjà décidé, il voulait aller en CAP. Du coup, ça l'a complètement, il a fait limite deux années, on va pas dire pour rien, mais faire des mathématiques Alors que de troisième, savoir le théorème de Pythagore, je sais pas si lui ça l'a absolument pas aidé. Du coup, limite, c'est des heures perdues. Et du coup, après se réorienter plus tôt, peut-être que pour lui ça aurait été positif. Après, est-ce que le problème c'est que forcément, si il serait comme disait Ulysse, si jamais tu te réorientes plus tôt, après tu perds certaines la culture générale. Mais après, est-ce qu'il faudrait pas modifier les CAP pour faire des matières aussi pour que tout le monde soit de bons citoyens, et aussi pour les langues aussi, parce que
les CAP qui sont d'ailleurs quasiment en voie d'extinction maintenant, ouais, qui ont été remplacés par des BEP voire des bac pro en 3 ans. Mais oui, bien sûr. C'est peut-être une suggestion qu'on pourrait prendre en compte. Joris, tu voulais dire quelque chose aussi, je crois.
Ouais, il faut aussi comparer par rapport à l'Allemagne, où dès à partir de 14 ans, ils sont orientés, ils savent ce qu'ils vont faire à 14 ans. Donc voilà.
Alors, les doigts se bousculent. Anne-Sophie, et puis Fanny.
Je trouvais que ce qu'a dit Ulysse, c'était pas tout à fait vrai, parce que à 14 ans, on a quand même déjà une culture. Alors c'est sûr, on n'a pas des notions très poussées dans toutes les matières, dans les mathématiques, etc. Mais c'est pas ça qui va nous faire devenir un citoyen. Et puis ça n'empêche pas, justement, comme disait Antonin, que dans les CAP ou toutes sortes de formations plus tôt, justement, il y ait des notions des notions sur la culture générale qui soient beaucoup plus où on accentue là-dessus, en plus de former sur le métier désiré.
Ulysse, il y a quelque chose à répondre à ça avant que... puisque c'est vas-y, toi qui l'attaque directement.
Non, vas-y Fanny.
D'accord, il est élégant, Ulysse, et poli, il laisse la priorité aux jeunes filles. Fanny.
Moi, je pense qu'il y a vraiment un problème de maturité, et je ne suis pas sûre qu'à 14 ans, je me rends compte déjà qu'à 16 ans, c'est parfois dur de savoir à quoi on veut destiner sa vie, finalement. Donc à 14 ans, je trouve que c'est assez difficile de finalement de se dire que voilà, on va exercer ça toute sa vie. Et Joris, tu parlais de l'Allemagne tout à l'heure, mais l'Allemagne, le gros problème que ça pose, c'est quand même les inégalités. Parce que finalement, des élèves qui vont très tôt... Enfin, il peut y avoir des élèves qui vont être mauvais, mais par manque de motivation, et ils vont se retrouver dans des filières avec des élèves donc, qui ne vont pas forcément avoir la volonté de faire des études longues. Et du coup, ils ne vont pas vraiment pouvoir sortir de ce cursus, ils vont être un peu enfermés pour un choix qu'ils ont fait finalement en étant très jeunes. Donc je trouve que c'est un peu inégal.
Théo ?
Moi, je pense qu'une personne... de 14 ans, s'il a vraiment envie, il a vraiment sa passion, il peut se diriger pour aller faire ce métier. Et après, si c'est vraiment c'est quelque chose, après il se rend compte que ça lui va pas, il pourra, je pense, passer sur une autre filière. Mais si vraiment c'est quelque chose qu'il aime, s'il va faire ce qu'il veut, il sera poussé à bien travailler. Que si après il se rend compte qu'il a encore pas mal de temps pour pouvoir faire ce qu'il veut, il sera déçu et je pense ses résultats ils seront moins bons.
Ouais, c'est probablement une affaire de motivation, comme on dit. Quand on connaît le but des études que l'on fait, il est évident qu'on a plus envie de se donner à fond, pour parler un peu familièrement. Ulysse, le retour.
Oui, alors pour répondre à Anne-Sophie, je suis d'accord sur un certain point, et je pourrais même faire une sorte de concession. Si les formations en apprentissage des 14 ans garantissent un enseignement en histoire-géo, en français et une aisance à l'oral... importantes, plus importantes qu'aujourd'hui, qui sont à mon avis trop faibles, pourquoi pas. Et oui, vas-y.
Oui, parce qu'après, pour te répondre, ces élèves-là, ils vont être obligés d'assister à des cours, et des cours où ils ne vont pas apprendre les notions et ça ne va pas les intéresser. Et au contraire, ils vont perdre leur temps. Après, c'est des élèves qui vont sécher les cours, qui vont être dans la rue à 14 ans et qui vont traîner la rue. Et franchement, je ne pense pas que ça leur apporte vraiment des choses bien. Et justement, ces notions-là et de culture générale, ils ne les auront pas forcément en assistant à des cours auxquels ils n'ont pas envie d'être.
Ouais, moi je pense que on doit pas se laisser dépasser, que on doit entre guillemets obliger les jeunes, et qu'il faut une présence de l'État, une présence de l'éducation nationale partout, sur tout le territoire, pour tous les gens, partout, que ce soit en banlieue, dans les centres, en campagne, il faut que tout le monde ait une éducation importante pour un niveau de culture générale important. Et qu'on ne peut pas laisser tomber des jeunes.
Et comment on détermine ce niveau de culture générale? Parce que c'est un peu ça le souci. Je sais qu'il y a beaucoup
c'est
de débats de chaque matière, évidemment, le français, les mathématiques, l'anglais, et tout ça s'additionne. C'est parfois les critiques qui sont faites, et peut-être à juste titre. C'est-à-dire que finalement, où est le curseur de la culture générale minimale pour tout le monde? Alors il y a le socle des compétences qui existent maintenant, le socle de connaissances au collège, qui établit un peu d'une certaine manière ce minima ou ce maxima, je ne sais pas très bien dans quel sens on peut le prendre. Mais c'est ça aussi qui est un peu compliqué. Qui choisit alors bon, des spécialistes, le ministre qui tranche en dernier recours, mais c'est toujours un peu subjectif par définition, ça. Chaque enseignant, chaque représentant d'une matière va considérer qu'évidemment, dans sa matière, je suis bien placé pour en parler, vu ma profession, eh bien, tout est important, ou les trois quarts des choses sont importantes. Donc comment on va faire le tri, comment on va élaguer? Il faudrait quelqu'un d'objectif, si c'est possible en la matière. Enfin, ça paraît un peu compliqué. Vous êtes tous dans des études générales, par définition. Si j'étais un peu l'avocat du diable, est-ce qu'à l'inverse, c'est pas une manière de reculer tout le temps le choix d'un futur métier ou d'une filière? Est-ce que vous savez, bien qu'en étant, je le présente comme un paradoxe un peu par provocation, mais en lycée général, ce que vous voulez faire plus tard? Est-ce que vous avez un métier ou des métiers en tête ou pas du tout? Plutôt une série scientifique pour la plupart de ceux qui sont autour de la table. Oui, Fanny?
Moi, je pense que justement, le fait d'être en lycée général, enfin, moi, ça, c'est assez personnel, mais je pense que ça permet aussi de mûrir et de mûrir certains projets. Moi, j'avais un projet, je me suis rendu compte en cours de lycée. Enfin, ça permet de remettre en question, je trouve. Et donc voilà, de découvrir nouvelles voies aussi. Parce que justement, lycée général, on s'intéresse à beaucoup de choses, que ce soit à l'histoire, mais aussi aux matières scientifiques. Et ça permet d'avoir une perspective qui est assez large.
D'accord, eh bien écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question pour aujourd'hui. Je ne sais pas si notre grand chef à la régie a un petit jingle qu'il nous a proposé déjà la semaine dernière. Oui, chef Joris?
Non, cette fois-ci c'est Antonin qui propose.
C'est Antonin qui va nous proposer une virgule musicale avant le prochain sujet et entre les deux premiers sujets sur les otages. Antonin, tu peux dégainer. À tout de suite! Pour ce jingle, il s'agissait de
C2C, You Never Too Happy. Voilà.
C'est ton prof d'anglais qui va être content. ce qui signifie en français
En fait, c'est juste happy, du coup, c'est joyeux.
Heureux, d'accord. Alors, c'est moins heureux, pardon, pour la transition, mais nous allons parler maintenant des otages à l'étranger, les otages français qui sont souvent libérés. Alors, c'est dit ou ça n'est pas dit, on le sait parfois après, avec des rançons à la clé. Évidemment, on ne dit jamais, pour qu'il n'y ait pas cas d'école et que d'autres preneurs d'otages aient la même idée, qu'on va donner une rançon, mais on sait que ça a été fait par le passé. Alors, est-ce qu'il faut céder une certaine forme de pression? En même temps, il y a des vies humaines à sauver derrière. Ou est-ce qu'il faut tout faire pour les libérer sans verser le moindre argent possible, car c'est une forme de chantage? Clarisse?
Ben, c'est un sujet assez délicat, je pense, parce que effectivement, il y a des vies humaines qui sont en jeu, mais en même temps, ça serait leur donner une rançon, ça serait rentrer dans le système, donc rentrer dans leur jeu. Donc, il faut en même temps, je pense, il y a des associations ou des choses qui luttent pour ça, pour que les gens soient libérés, et je pense qu'il faut soutenir ces associations et faire une pression sur l'État et trouver un moyen, donc. Un autre moyen que la rançon, mais qui marche aussi bien. Enfin, si la rançon marche.
Moi, après, je pense c'est un sujet assez délicat parce que si après l'État il va pas payer la rançon, après le problème c'est que si il va être obligé d'aller avec les armes, ils vont sauver des vies humaines, mais ils vont en tuer aussi. Donc, après, je pense que c'est pas du tout la solution à prendre. La rançon, c'est comme disait Clarisse, c'est aussi rentrer dans le jeu de ceux qui ont pris les personnes en otage. Donc après, il faut trouver une autre méthode, mais c'est assez c'est mitigé pour trouver.
Ulysse?
Oui, alors déjà, c'est vrai que quand on paye des rançons, on finance, les États financent directement le terrorisme. Donc c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut savoir. Et puis le problème, c'est que quand on ne paye pas, on essaie de faire des interventions armées, Et plusieurs fois, la France a essayé de faire des interventions pour libérer les otages. Et quasiment tout le temps, ça s'est soldé par la mort des otages et parfois par la mort de soldats qui intervenaient. Alors aussi, il faut savoir que la France, pendant très longtemps, jusqu'il y a quelques années, plus précisément depuis un an, la France était connue, entre guillemets, dans le monde pour être le pays qui payait les rançons assez facilement. Et donc, du coup, les otages, les Français à l'étranger étaient des cibles privilégiées, alors que les pays anglo-saxons ont toujours... ou en tout cas sans le savoir, ou en tout cas on le sait pas, mais ont toujours refusé de payer des rançons. Il y a une
En tout cas on le sait pas, c'est bien ça. Le débat, hein.
Et les aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les pays anglo-saxons révèlent beaucoup moins les prises d'otages qu'il y a en France. Et donc depuis un an, le nouveau gouvernement a dit, en tout cas on sait pas du tout si c'est dans les faits ou pas, a dit qu'il ne voulait plus du tout payer de rançons. Et on a pu le voir en janvier, quand on n'a pas voulu payer de rançon pour un agent des services secrets extérieurs français qu'on a voulu libérer en Somalie, Denis Alex, on n'a pas voulu payer la rançon, on est intervenu, il y a eu des morts. Et il faut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup, quoi ?
Effectivement. Martin, tu as un avis sur la question ?
Oui, j'en ai un. Mais c'est...
Certainement.
En fait, j'ai un peu peur, moi, que...
Enfin, donner ton avis. Non, je plaisante.
Non, pas du tout.
Tu veux le faire.
Non, j'ai peur qu'en fait, les intérêts politiques et autres, que sauver une vie humaine passe avant, certaines fois, avec la médiatisation de ces événements, j'ai l'impression qu'on fait passer l'éthique, le fait qu'il y ait une vie humaine qui soit en jeu, ou plusieurs, après le fait qu'il y ait des problèmes peut-être politiques, etc., dans ces pays. Et je sais qu'il y a beaucoup d'otages qui sont encore emprisonnés dans nombreux pays et dont on parle peu.
Ça, c'est encore un aspect des choses. Pardon, t'interromps, je leur donne la parole. Mais effectivement, est-ce qu'il faut médiatiser les noms de ceux qui sont pris en otage ? On sait que par le passé, ça a plutôt bien fonctionné, que parfois, ils ont des informations, alors par la radio, par les preneurs d'otages eux-mêmes. Je parle de ceux qui sont en otage, qui sont prisonniers, et ils sont réconfortés, et c'est souvent grâce à ça qu'ils survivent, parce qu'ils savent qu'en France, il y a des campagnes d'information, il y a des manifestations, etc. Et en même temps, ça peut, à l'inverse, effectivement, exciter, si je puis dire, l'aspect négatif des preneurs d'otages. Si on pense quoi, toi, Martin ? Est-ce qu'il faut faire savoir les choses régulièrement ? Je crois qu'une fois par semaine, sur France 2 en tout cas, le présentateur Pujadas, David, évoquait déjà le mercredi, oui, ou le jeudi, peut-être bien le mercredi. On verra ce soir, car nous sommes en direct, je le rappelle, chers auditeurs de RDIWA. Il est très exactement midi 31 sur RDIWA. Eh bien, oui, chaque semaine, on rappelle le nom et on donne le visage des preneurs d'otages. Martin ?
Oui, je pense que ça permet juste de faire connaître ça un peu au public et puis de faire une sorte de compte-rendu de l'état des choses, quoi, de savoir qu'il y a des personnes qui sont en danger à l'extérieur, qu'on peut soutenir. Et voilà, donc ça c'est bien. Mais après, j'ai peur que la médiatisation, elle s'oriente malheureusement vers les intérêts politiques de certains, vers les intérêts économiques. Entre les liens. Donc voilà, c'est juste de ça que...
D'accord, merci. Fanny ?
En effet, moi je pense que c'est important de médiatiser ça, parce qu'on est quand même dans une démocratie, et voilà, justement, au nom de ces otages, et aussi, je pense que le peuple français a le droit de savoir, mais je pense que la médiatisation est vraiment trop importante, et du coup, les preneurs d'otages ont l'attention qu'ils réclament, ça permet de faire connaître leur mouvement, et encore une fois, les rançons, ça finance, donc je pense que cette médiatisation, elle doit être un petit peu limitée.
Juré. Adrien ?
Lise, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure, je voudrais savoir, je ne sais pas si tu sais, mais quelle était leur solution pour les pays qui ne payaient pas la rançon pour leurs otages ? Et est-ce que c'était leur objectif entre guillemets, de sacrifier des citoyens en otage pour pouvoir être une cible moindre par rapport aux terroristes ?
J'espère pas, mais parfois c'est le risque qu'on peut prendre, effectivement. On prend toujours un risque dans un sens ou dans l'autre.
Qu'au final, on a toujours des... On est toujours ciblé, quoi, quand on...
Tu as posé la question à Ulysse, mais je me permets d'apporter mon élément modeste de réponse. Je pense à la diplomatie, je pense que c'est les agents secrets, et ce qui existe aussi du côté de la France. Mais effectivement, ce refus, au moins affiché, parce qu'il faut toujours être prudent, de ne jamais verser de rançon pour ne pas donner, encore une fois, des idées aux futurs potentiels preneurs d'otages mal intentionnés par définition. Ulysse.
Oui, alors pour les solutions, j'ai trouvé sur Internet un témoignage à un agent de la DGSE, donc les services secrets extérieurs français, qui dit que ce n'est pas parce que l'on paye plus que l'on ne travaille plus
On peut travailler sur l'entourage familial du ravisseur, on peut lui mettre la pression en coupant ses soutiens, on peut s'appuyer pour cela sur les autorités locales qui disposent d'autres moyens de le veiller, et puis, si on a assez d'éléments, on peut aller chercher l'otage de force. Alors, on sait parfois ce qu'ont les conséquences d'une récupération d'otages de force, mais c'est vrai que les solutions, et il faut trouver un juste milieu, je pense, entre financer le terrorisme, entre payer les rançons, et attaquer frontalement le terrorisme. Je pense qu'il y a des moyens intermédiaires.
D'autres opinions sur ce sujet avant peut-être de passer au troisième et dernier sujet de CCC. C'est ça la classe.
Juste moi, je voulais
Anne-Sophie.
Je voulais juste dire que, en fait, je pense qu'il ne faut pas vraiment trop médiatiser. Il faut le faire savoir aux Français pour les personnes qui sont prises en otage, mais pas non plus trop, parce que ce serait donner trop d'importance, leur donner trop d'importance aux ravisseurs. Et plus ils vont sentir qu'ils ont de l'importance, plus ils vont sentir qu'ils peuvent faire de la pression et que, en fait, les otages français, oui, vont être la cible. Et c'est pour ça qu'il faut rester très prudent avec la médiatisation. Tu disais, Fanny, qu'on est dans la démocratie, c'est sûr, mais je pense qu'il ne faut pas leur donner autant d'importance qu'on le fait. Et c'est sûr, il faut le faire savoir, bien sûr, pour la personne, mais restez prudent.
Ulysse, pour finir.
Oui, alors, ce que je veux dire, c'est qu'aussi la médiatisation, elle peut entraîner parfois, quand il y a une victoire, des récupérations très politiques. On se souvient, il me semble que c'était en 2010, qu'il y a eu la libération de Madame Bettencourt, en Bolivie, il me semble. Il y avait une
Colombie.
Il y avait une récupération assez politique de Nicolas Sarkozy et d'elle-même aussi qui avait dit bravo Monsieur Sarkozy, tous mes partisans vous remercient du plus fond du cœur. Il peut y avoir un risque de récupération politique.
Ouais,
hélas.
Alors en même temps, sans faire de politique politicienne partisane, de ce que je sais, même si on entend beaucoup moins parler de Mme Bettencourt depuis ce temps-là, elle a dit à un posteriori, encore récemment me semble-t-il, que assez objectivement, ça n'est pas forcément objectif parce que c'est elle qui le dit, qu'elle le remercie encore, quoi. Ça peut pas être sous le coup de l'émotion d'avoir été libérée, mais visiblement il y a quand même eu une action réelle. Alors après, M. Sarkozy directement ou indirectement, il n'est pas le seul évidemment, et jamais le chef de l'État à intervenir dans ces cas-là, mais voilà, je pense qu'il a eu un rôle quand même, sans vouloir défendre qui que ce soit ici, mais bien sûr qu'il y a toujours une part de récupération sous le type de tendance politique de la part des politiques, évidemment.
L'administration a eu un rôle. Est-ce que c'est lui qui a pris les décisions?
Il y avait aussi l'affaire des infirmières bulgares, là où Madame Sarkozy de l'époque, Cécilia
également
Sarkozy,
récupération politique.
Ça n'engage que toi, mais
évidemment.
Mais ça peut être considéré comme tel. Et en tout cas, il y a toujours un soupçon. La preuve. Martin.
Moi, j'aimerais bien insister juste sur le fait qu'il s'agit vraiment de vie humaine. Et donc, insister sur ce côté humain, en fait, à mettre en avant ça, qu'il ne soit pas gâché justement par tous ces médias, cette médiation qui est abusée, enfin abusive des fois, et qui est utilisée, qui est détournée par certains. Et justement, qu'on perde ce côté humain au profit de côtés qui ramènent à des intérêts des États politiques.
Financiers, politiques, mais bien sûr, il y a l'argent d'un côté, l'humain de l'autre, et voilà, c'est un peu compliqué, forcément.
Politique au milieu.
Et voilà aussi qu'on ne fasse pas des choix en ce qui concerne, par exemple, que s'il s'agit d'un agent secret qui a été pris en otage, qui passe en premier par rapport à des personnes, une famille qui a été prise en otage ailleurs.
Oui, enfin, voilà, le problème des priorités, ce qu'on doit libérer plutôt. C'est
très compréhensible, mais
si, si. Parfois, on va donner peut-être des priorités de manière implicite ou explicite pour libérer plutôt telle ou telle personne parce qu'elle est davantage connue, médiatique, que ça a plus de retentissement parce que c'est effectivement un fonctionnaire. Oui, bien sûr, ça pose aussi ces questions-là. Fanny, pour vraiment terminer, non, Fanny finalement a renoncé. Et alors, je ne sais pas, c'est toujours la surprise de l'animateur, si nous avons une nouvelle virgule musicale. Donc, on se retrouve après une très courte pause pour parler de notre dernier sujet sur les campagnes de lutte contre toutes sortes de fléaux, on va dire, au sens large. A tout de suite sur RDWA.
How to do what you get, how to do without you. You're my all-star. How to do what you get.
Il est bientôt 12h40 sur Radio Diwa et nous allons donc terminer cette émission avec notre bande de lycéens. C'est ça la classe. Et le dernier sujet concerne les différentes campagnes de lutte contre la violence routière, souvent. Pendant très longtemps, ou autre sujet sur lequel on va venir dans deux secondes, mais pendant très longtemps en France, on a eu des campagnes assez soft, comme on dit en anglais. Et justement, on est allé chercher un peu du côté des anglo-saxons qui faisaient des campagnes beaucoup plus violentes, beaucoup plus virulentes, avec vraiment la réalité de corps plus qu'abîmés après des accidents de voiture ou de moto, étaient dans un triste état, ou des gens qui allaient frapper à la porte de famille pour leur annoncer que leur fils venait de mourir 5 minutes avant, écrasé par une voiture. Alors, est-ce qu'il faut des images chocs? Est-ce qu'il faut des images plus douces? Est-ce que quand on en fait trop et que c'est trop dur, du coup, les gens se détournent le regard par pudeur, par difficulté de soutenir l'image, et du coup, ne sont pas convaincus? Ou est-ce qu'à l'inverse, quand c'est trop mou, quand c'est trop ludique, quand c'est trop humoristique, ou quand c'est trop léger, tout simplement, et trop... on va dire dans la guimauve, eh bien les gens ne font pas attention non plus au sujet. Et donc récemment, je disais en introduction de cette émission, Indochine a fait parler de lui, le groupe Indochine, le groupe français, avec ce clip College Boy, qui a pour but de lutter contre la violence à l'école, qui va très 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 loin. Je crois qu'Ulysse notamment l'a vu et quelques autres. Alors est-ce que vous pensez, à partir de ce clip, mais aussi de manière plus large sur d'autres sujets et sur d'autres types de dénonciations, il faut vraiment choquer par l'image, par le son, ou est-ce qu'il faut être plus prudent pour concerner le plus large public possible, parce que du coup, ce clip est interdit, en tout cas pour les plus jeunes. Ulysse, ou peut-être Martin d'abord? Martin?
Eh ben, pour ma part, je pense qu'il faut avoir d'abord, pour l'utilisation des images SOC, c'est une bonne solution, mais à mon avis, il faut avoir une certaine maturité en fait, pour les comprendre et pour avoir un esprit critique sur ces images et pas les interpréter de manière, enfin, au pied de la lettre, comme pourraient le faire des personnes qui sont... des enfants ou des personnes trop jeunes. Et je pense qu'il faut, ouais, il faut avoir cette capacité à prendre du recul. Par contre, une fois qu'on a cette capacité, à mon avis, c'est la bonne solution. Et je dirais même que plus que des images, le mieux, c'est de le voir. J'ai cet exemple, puisqu'on l'a vécu il y a un an. On a eu en direct un accident de voiture, donc une reproduction d'un accident de voiture.
Oui, dans le cadre du lycée, effectivement. Voilà, j'y étais aussi.
Et sur l'air du Méros. C'est la chose qu'on retient parce qu'on l'a vécu et
tu peux
qu'on ressent
raconter un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là parmi nos auditeurs.
Ouais,
j'imagine ça consistait en quoi cette reconstitution qui était assez spectaculaire.
Ouais, ben c'était une reconstitution. Il y a eu un accident en fait d'une voiture qui est rentrée en collision avec un scooter et rien qu'à 50 km/h, c'était vraiment déjà très impressionnant parce qu'il y avait éclat de verre, etc. Donc du coup, rien que ça montrait bien le choc. Fin.
Ulysse et Fanny.
Oui, alors déjà, pour raconter vite fait le clip de College Boy, donc de Indochine, qui est sorti il y a un mois, je pense, environ. Donc c'est dans un lycée, j'ai envie de dire classique. Ils sont tous sont en costard, cravate. C'est en noir et blanc.
Dans un collège, j'imagine.
Dans un collège. Clip, mais... ça commence, ils sont en classe. Il y a donc l'élève va recevoir des boules de papier d'abord, et puis il découvre dans son casier que son casier était vidé pour mettre plein de papier toilette dedans. Et puis ensuite, quand arrivé la récré, quelques jeunes s'entourent autour de lui, le tabassent, urine dessus, lui plante des clous dans les mains et le monte sur une croix. Donc ils ont ensuite une fois sur cette croix, donc les mains et les pieds cloués, ils lui mettent un ruban lumineux qu'ils mettent autour de lui, et ensuite avec des mitrailleuses et des fusils lui tirent dessus à balles réelles. Et en même temps on voit tous les autres acteurs, les policiers qui arrivent, mais aussi les surveillants et les autres élèves qui ont des rubans sur les yeux, donc évidemment pour symboliser leur aveuglement de la situation, et puis les jeunes qui ont fait ces choses horribles repartent comme si de rien n'était. Et voilà.
Fanny me faisait remarquer en aparté que College Boy, comme c'est en anglais, collège, ça peut désigner aussi des lycéens, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça.
D'accord, merci pour la rectification. Oui, je crois qu'Ulysse a assez bien décrit le clip, c'est assez saisissant, c'est le moins que l'on puisse dire. Est-ce que vous pensez que tu répondras aussi peut-être à la description précise qu'en a fait Ulysse, mais qu'on doit interdire, et à partir de quel âge? Bon, c'est un peu compliqué ça aussi comme curseur à établir. C'est un peu, ça n'a rien à voir, mais en même temps, ça a un rapport sur le minima de la culture générale. Où est-ce qu'on met le curseur? Ou est-ce qu'à l'inverse, finalement, peut-être les premiers concernés, d'une certaine manière, les enfants ou adolescents tabassés et tabasseurs surtout, à la limite, n'ont pas besoin de voir ce type de réalité-là. Alors c'est un peu extrême, c'est un clip, c'est de l'art, et c'est pas tous les jours comme ça dans les établissements scolaires, heureusement. Et surtout pas à 10, où on travaille dans des conditions sereines, mais on sait qu'il se passe dans les collèges, peut-être plus qu'au lycée, de manière générale, des choses parfois très dures. Fanny et Anne-Sophie.
Bah moi, je pense que l'utilisation... Et Théo. Je pense que l'utilisation de ces images, c'est bien dans, le cadre où, dans un cadre maîtrisé. Donc Martin, tout à l'heure, parlait du crash test, et je pense que là, c'était justement dans le cadre du lycée, et ça s'adressait à des jeunes qui avaient finalement la maturité de comprendre et d'interpréter ces images. Et je pense que cette violence-là, parce qu'on peut quand même parler de violence, bah, en effet, ça nous a tous fait prendre conscience des dangers de la route. Et donc je pense que du coup, ça a été plutôt positif. Mais je trouve que le mauvais côté moi, de ce clip, College Boy, c'est que justement, bah, ça, c'est à disposition de tous. Et que finalement, tout le monde peut voir ça, et ça peut être aussi très mal interprété. Et je trouve que c'est des images qui sont vachement violentes. Et moi, je pense que pour, par exemple, enfin, il y a de plus en plus de gens sur le net, et je pense que pour des jeunes enfants, bah, ça peut être, voilà, ça peut être quand même choquant.
Anne-Sophie, Théo, Ulysse.
Moi, je vais juste dire que des images violentes, on, tout ça, des enfants qui se font tabasser, on le voit déjà aux informations, nos JT, ils en parlent. On voit pas les images, mais ils en parlent. Et je trouve qu'on est déjà énormément entouré de violence et qu'on n'a pas besoin, par exemple, dans le cadre d'une chanson, d'un clip, d'encore montrer cette violence. Et après, pour le lycée, c'était...
C'est de l'art. On pourra te répondre ça. Et en art, tout est possible.
De l'art, on apprécie ou non.
Mais qui les établit? On revient toujours à la même question.
Oui, bah,
un artiste, a priori, est libre de...
Le fait de moins être moins de 18 ans.
Dans la limite de la loi, hein, bien sûr.
De le faire passer, ils avaient parlé de le faire passer qu'à partir de 22h30 à la télévision. Mais je trouve que ça reste des images qui sont pas forcément à montrer, pas pour se cacher, mais juste parce que c'est même pour les enfants qui se font tabasser, ça sert à quoi de leur montrer ça et...
Quand on a des images violentes au journal télévisé, en général, le présentateur prévient avant. Oui. Ça aussi, c'est important. Alors que sur le net, on peut tomber effectivement sur tout n'importe quoi. Il dit, pour ceux qui ont des enfants ou qui ont certaines sensibilités, je vous préviens, les images qui vont suivre vont être particulièrement difficiles à soutenir. Théo, Martin, et les doigts se bousculent de nouveau comme sur le premier sujet, et Clarisse. Théo, Martin et Clarisse, dans l'ordre. Comme ça, je ne vous interromperai plus, vous pourrez enchaîner vos échanges.
Moi, je pense que, donc on dit, on veut montrer des vidéos choc ou des éléments choc. Après, ça dépend franchement de l'âge, mais parce qu'il faut atteindre quand même un cap pour pouvoir voir ces images. Après, pour ceux qui sont quand même qui ont passé le cap de la maturité et qui voient ces images, ils se rendent vraiment compte de ce qui se passe. Parce que des fois, on peut en parler, mais on ne le montre pas spécialement. Après, que moi, je m'en souviens, quand j'étais au collège, on m'avait montré une vidéo avec aussi un accident. Et on ne se rend pas vraiment compte quand on ne le voit pas vraiment de ce qui se passe. Après, c'est sûr, il y en a qui peuvent l'interpréter d'une manière différente.
Moi, c'était plus ma réponse, elle s'adresse plus à Anne-Sophie, quand tu disais qu'on en parlait déjà beaucoup à la télé et que c'était médiatisé. Je trouve que, enfin, personnellement, le fait d'en parler, c'est pas ce qui me permet de m'en rendre compte le plus. Et je pense que ça met déjà une distance. Enfin, c'est peu concret pour les personnes qui écoutent ça déjà. Je pense que l'utilisation des images, elle est importante. Elle est pas indispensable peut-être, mais je pense que c'est ce qui permet d'avoir une prise de conscience la plus rapide et la plus efficace. Et après, voilà, le fait de respecter la maturité de la personne qui voit ça, ça, c'est important.
C'est important. Moi, je pense, par exemple, à l'école, quand on nous parle des sujets historiques et des nazis, quand on nous fait voir les images, c'est bien sûr qu'on ne peut pas les voir quand on est trop jeune. Et que, franchement, je pense qu'il faut vraiment avoir l'âge pour pouvoir les voir. Et ça dépend de chacun. C'est pour ça que, pour moi, mettre des moins de 18 ans, ça ne rime pas à grand-chose.
Clarisse, tu voulais ajouter quelque chose? Et Ulysse aussi?
Oui, je pense qu'il faut choquer, mais pas trop, parce que choquer, ça permet de prendre conscience, mais trop choquer, ça peut aussi... donc, effectivement, on prend conscience de la chose, mais ça, comme le disait Fanny ou Théo tout à l'heure, eh ben, sur le net, c'est ouvert à tout le monde, et il y a des gens qui ne vont pas l'interpréter pareil, des enfants qui vont voir ce clip, ils ne vont pas forcément comprendre, et du coup... peut-être faire quelque chose qui serait diffusé sur le net, peut-être le faire moins choquant et qui... moins choquant.
Oui, alors moi je pense qu'il faut les limites d'âge sur Internet, elles peuvent être mises, bon c'est quand même si on s'y connaît un peu, bon, c'est assez facile de les contourner, mais
il suffit de dire à la question qu'on vous pose en général,
non,
certifiez-vous mais, que vous avez, il y a des bloqueurs, on peut bloquer ça, les parents peuvent faire des blocages parentaux, c'est ça, mais enfin bon, à mon avis ça se contourne assez vite. Les enfants sont meilleurs en la matière que les... Pardon, je t'ai interrompu.
Oui, bah, par exemple, moi, je ne dois pas être le seul, j'ai un compte YouTube.
Désolé.
Et par exemple, en fait, ce clip, il est interdit aux moins de 16 ans, donc il y a des limites d'âge. On peut mettre des limites d'âge vraiment effectives sur...
Mais qui ? Sur, parents, un
sur
ordinateur
YouTube, sur YouTube. L'utilisateur qui poste cette vidéo peut mettre... Les utilisateurs qui ont moins de 16 ans ne peuvent pas voir cette vidéo, et moi j'ai plusieurs voix vues.
Mais comment il sait que celui qui est
mais parce que
connecté...
ceux qui ont des comptes YouTube, il y a leur âge, on met notre date de naissance.
Ah d'accord, donc vous êtes inscrit et fiché partout encore, d'accord, comme sur le net en général.
Et donc je pense, bon ça suffit pas, mais ça peut être une première bonne chose, et je pense aussi que ces images, si elles sont montrées à un jeune public, trop jeune, pas du tout, mais un public adolescent, je pense qu'elles doivent être accompagnées ensuite, ça peut être l'occasion de débattre et, en classe de cela, et d'avoir un accompagnement.
Ou à la radio.
Ou d'avoir un accompagnement, entre guillemets, pédagogique, de discuter autour de ça, et que ça fasse parler, en tout cas.
Oui, c'est vrai. En tout cas, ça fait parler. Je pense que c'est aussi fait pour, et du coup, ça fait aussi de la publicité pour. J'espère que ça n'est pas fait que pour ça. Ils ont déjà assez de notoriété comme cela, malgré tout, quand même, ce groupe-là, Indochine. Mais après, voilà, est-ce qu'on parle plus de la violence des images ou du sujet lui-même? C'est là, peut-être, qu'on peut se poser la question. Fanny et Clarisse, de nouveau?
Moi, je pense que la violence, d'une certaine manière, c'est un peu nécessaire parce que, justement, dans l'image du clip Indochine, avec les gens qui avaient un bandeau sur les yeux, on est tous un peu comme ça, à pas vouloir finalement voir la réalité des choses. Et je pense que cette violence-là, si elle est bien utilisée, parfois c'est nécessaire. On a, par exemple, je pense que beaucoup d'entre nous ont dû voir le film Nuit et brouillard sur le génocide juif. Et justement, je trouve que ça a beaucoup de poids parce que ça permet justement de faire comprendre à quel point ça a été un drame. Et justement, je rebondis sur ce que tu disais, Ulysse. Je pense que c'est super important que ça soit accompagné parce que c'est ça qui sert justement à que cette violence-là soit transformée en quelque chose de positif, en une arme finalement, et pour nous défendre et pour défendre la société. Mais après, je pense que justement, les limites d'âge, c'est nécessaire parce que justement, cette violence-là peut pas être transformée en quelque chose de bon.
Anne-Sophie, tu demandes la parole, Martin aussi.
Oui, c'était juste pour dire que les images choc, je pense pas que ce soit forcément... Ça, c'est nécessaire, mais je pense pas que ça marche tout le temps. Par exemple, je sais pas, les paquets de cigarettes avec leurs images choc, moi, j'ai beau en voir tous les jours, on se rend bien compte que ça détourne pas forcément les gens... Les gens de voir des images choc avec de la dentition complètement abîmée, etc. Ça en détourne certains, mais ça
et
dépend de la
ça,
sensibilité.
Même le kiné ne pourra rien faire. C'est un message subliminal pour Anne-Sophie. Ça n'est pas sa partie. Il est dedans. Il y avait... j'ai lu encore récemment que la mâchoire avait des répercussions sur beaucoup de choses, et notamment le dos. Donc finalement, si, le kiné est peut-être compétent en la matière, on lui demandera. Martin, je crois que vous voulez dire quelque chose.
Et je crois que vous avez un peu cassé le débat, monsieur Fanny, qui veut réagir.
Comment ça, j'ai cassé le débat?
Vous avez dit qu'il fallait
que c'est très agréable. On parlait de casser les dents, éventuellement. Donc, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse, Martin? Dis-nous tout, qu'on entende, pardon. Fanny, bien sûr. Merci de recentrer le débat, comme on dit dans ces cas-là en général.
C'est juste pour réagir à ce que tu dis, Anne-Sophie, j'ai une question pour toi. En effet, les images pour les cigarettes n'ont pas toujours marché, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut vraiment rien faire et laisser les gens du coup fumer et...
Dans ce cas-là, ça sert à quoi de leur mettre des images? Je veux dire, si c'est leur plaisir... Après, l'État, il a tellement
ça
d'autres moyens,
morale,
tellement
ça
d'autres...
Ça peut être juste le fait d'avoir ça sous les yeux, ça permet juste de réfléchir, quoi.
Ça leur permet de réfléchir, mais ça va pas forcément les détourner. Donc après, je veux dire, on a qu'une vie, ça sert à quoi de les...
Mieux vaut ça que rien en même temps, je veux dire, c'est...
Mais moi, je suis complètement contre fumer, etc. Mais je comprends pas... Après, ça va pas marcher forcément. Donc dans ce cas-là, je vois pas l'intérêt de montrer des images violentes aux gens.
L'intérêt, c'est de montrer la réalité, quoi, de ce qui peut arriver. Et c'est ça, c'est de pas euphémiser les choses.
Mais je pense qu'ils le savent.
Marcher ou pas marcher, c'est compliqué, mais marquer les esprits, c'est évident que des images choc, en
tout
cas, font
parler. Le problème, c'est que les cigarettes, c'est un peu différent, parce qu'on nous rabâche, et c'est des choses auxquelles on croit de moins en moins, parce qu'on nous le dit sans arrêt, et au final, le fait de rabâcher, du coup, ça énerve, et ça...
moi, je pense que c'est plus ça, avec ça. C'est plus l'agacement de toujours dire arrêtez de fumer, arrêtez de fumer. Au bout d'un moment, faut faire
ouais, mais je pense que c'est pas
c'est
une
un peu comme
pour
les profs à force
images.
De rabâcher, rabâcher, rabâcher. Est-ce que vous vous en souvenez de ce qu'ils racontent ou, ou au contraire, est-ce que ça vous ennuie? J'attends pas de réponse. Antonin, je préfère pas entendre la réponse. Antonin, on t'écoute.
Voilà, moi, je pense que pour mieux sensibiliser, faut vraiment qu'il y ait des choses concrètes. Et concrètes, voilà. Avec par exemple bah, l'année dernière on avait vu avec le crash test, ça nous avait tous marqué. Je pense qu'il y a, voilà vraiment tous.
Je crois que tout le monde sera
voilà, ouais. Même adulte, voilà, et justement je pense que à l'école je pense que quand on est enfant, les choses nous marquent encore plus. Et du coup, je pense qu'à l'école, moi au collège, on a fait plusieurs manifestations comme ça, où par exemple, il y avait des gendarmes qui venaient nous sensibiliser. Et après, ils nous montraient des vidéos, ils nous montraient des choses comme ça, et ils en parlaient, ils parlaient d'expériences. Donc c'est vraiment des choses concrètes que limite, on arrive vraiment à s'imaginer. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça, limite, faire plus de travail à l'école, pour comme ça, d'une part, on peut, avant de montrer ça à des enfants, on peut réfléchir à... voilà, comment ils vont, est-ce que ça va vraiment les toucher, enfin voilà, justement réfléchir sur ça, voilà.
Alors il nous reste 5 minutes avant la fin de cette émission, on va essayer d'écouter un maximum de personnes. Adrien, Ulysse.
Donc ouais, moi je pense que le meilleur moyen de sensibiliser, c'est soit d'avoir vécu, comme disait Martin pour le crash test, soit d'avoir vécu, soit qu'un proche l'ait vécu, et là on prend peut-être ça plus au sérieux que des images ou simplement de petits textes, enfin voilà, même de publications de vidéos et tout qui peuvent choquer. Donc je pense que c'est par le moyen de sa propre expérience, c'est le meilleur moyen.
Ouais, moi je pense que les images choc et les clips comme Indochine, je pense que ça a vraiment un bon côté parce que on a remis sur le tapis le problème du harcèlement scolaire. Et je pense que ces choses-là, comme il y a quelques mois, il y avait eu un clip très...
Harcèlement à l'école, hein, oui. Scolaire c'est un peu ambigu.
Mais
je sais que les profs harcèlent, mais bon.
Mais il y a quelques mois, il y avait eu un clip fait par la sécurité routière très violent sur des jeunes qui font une soirée et puis y a un mort. Et je pense que ça remet vraiment ce sujet sur la place publique et sur le débat entre citoyens. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose que de provoquer, pour provoquer le débat et pour faire parler et pour faire prendre conscience.
Joris, tu voulais dire quelque chose?
Non, rien en particulier, non.
J'ai cru, pardon. Monsieur Théo.
Moi, je voulais rebondir aussi sur quand on met, par exemple, quand on a une vidéo choc et qu'on met une limite d'âge. Après, bien sûr, il y a une limite d'âge pour regarder, mais après, je pense que l'âge, c'est pas ce qui fait tout, parce qu'il peut y avoir des personnes qui ont l'âge pour regarder la vidéo, mais qui vont pas savoir vraiment l'interpréter. Que si y a une limite d'âge, mais il faut vraiment que ce soit en fonction de la personne qui se dise si elle peut elle-même, c'est...
C'est la maturité.
Voilà,
après,
c'est la maturité.
Oui, mais ça aussi, c'est difficile à établir à l'avance. Quoi. C'est-à-dire que qui va être choqué, pas choqué, et comment on limite l'accès de ces images à tel ou tel type de public, c'est un peu compliqué. Fanny ?
Bah justement, pour moi, l'utilisation de ces images, elle doit se faire avec un minimum d'encadrement, avec par exemple le biais de l'école, parce que l'école, justement, même si des personnes ne vont pas avoir eu la maturité de rebondir sur ça, et ben des gens seront là pour aussi leur expliquer et pour canaliser finalement tout ce qu'ils auront vu. Donc c'est vraiment le cadre, je pense, moi, qui doit être primordial.
Alors, il est presque 13h sur RDIWA. On va peut-être essayer de conclure cette émission. Quelqu'un veut peut-être apporter la conclusion à ce débat-là?
Non, c'est moi, allez-y.
Alors, les doigts se bousculaient tout à l'heure. Subitement, tout est dit. Personne ne veut conclure. Bon, mais écoutez, je remercie tous les auditeurs d'RDIWA. J'espère qu'ils vont devenir de plus en plus fidèles à cette émission. C'est ça, la classe. Le mercredi à 12h10 sur Radio DIWA, la radio du DIWA, la radio des DIWA et même au-delà, n'oubliez pas. Nous devrions nous retrouver pour la dernière de la saison, ce sera le numéro 4 de CCC, dans 15 jours, à la même heure, 12h10, après le flash de RFI, comme vous en avez l'habitude désormais. 3 sujets vous seront proposés, alors on essaiera de coller l'actu du moment, si je puis dire. On approchera de la fin de l'année scolaire et du baccalauréat. Donc on s'interrogera sur le bac, objet de stress, plus pour les parents parfois que pour les adolescents. On verra ce qu'il en est, vous êtes les premiers concernés. Nous parlons des vacances. Faut-il raccourcir l'été? C'est un projet de Monsieur Payon, le ministre de l'Éducation, pour des journées plus allégées le reste de l'année. Est-ce que les lycéens sont d'accord avec ça? Là aussi, ils sont au premier plan. Et puis, on en profitera, puisque ce jour-là, le 5 juin, sera la journée de test de recrutement des nouveaux élèves de la section Sport Nature pour recevoir quelques élèves de terminale qui terminent donc leur parcours dans quelques jours de 3 années au lycée du Diois et qui viendront nous présenter. On les invitera volontiers. Ils ont dit qu'ils seraient au rendez-vous. La section Sport Nature. J'ai proposé une problématique un peu ludique, mais évidemment, on creusera pour ceux qui ne connaissent pas le détail du contenu de cette section. Les sports nature sont-ils plus sport que nature ou plus nature que sport? C'est une boutade pour voir si finalement les deux dimensions sportives et intérêt pour la nature, curiosité pour la nature, est-ce que l'un des deux l'emporte? Le débat sera houleux. Nous vous souhaitons une très très bonne journée sur les programmes toujours passionnants de RDIOA, la radio des DIOA et même au-delà. Et toute l'équipe vous dit... tout son cœur. Au revoir et à dans 15 jours.
Au revoir. Au revoir.